Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public de retour. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre rendez-vous dominical pour regarder autrement l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Sylvie Kaufmann du journal Le Monde est là, bien sûr, pour la rentrée de l'Esprit Public et semble dans une forme éblouissante pour suivre comme toujours l'actualité internationale. Vous nous direz un mot tout à l'heure du décès de John McCain. Le politologue Dominique Régnier n'est pas en reste. Joie de vous retrouver aussi, Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova. Et puis soyez la bienvenue dans cette émission, Aurélie Filippetti. Nous sommes ravis de vous accueillir désormais dans l'orchestre de l'Esprit Public pour cette nouvelle saison. Ancienne ministre de la Culture, bien sûr, ancienne députée socialiste. Aujourd'hui, vous enseignez à Sciences Po et vous êtes en cette rentrée littéraire l'auteur des idéaux chez Fayard. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En attendant, voici le sommaire de ce dimanche 26 août 2018. Comment les partis écriront-ils l'an 2 du macronisme? Et puis Matteo Salvini, hold up sur l'Italie. Curieuse rentrée politique, qui n'était plus tout à fait le grand chamboule-tout de la saison précédente, mais qui donnait le sentiment que tout n'était pas encore en place pour la phase suivante. À l'image de ces socialistes qui faisaient leur carton de l'historique siège de la rue de Solferino, mais n'étaient pas encore installés dans leurs nouveaux locaux plus modestes d'Ivry. Des socialistes qui n'avaient plus les moyens d'organiser comme au bon vieux temps leurs universités d'été de La Rochelle, avec caméras, journalistes, militants et ténors du parti, mais finançaient malgré tout de jours de formation pour leurs élus. Des partis en mode survie, comme l'ex-Front National, rebaptisé Rassemblement National, qui attendait le 26 septembre pour savoir si la justice saisirait ou non 2 millions d'euros dans l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés. Des partis affaiblis par le macronisme, qui rêvaient que cette saison 2 soit l'occasion de se relancer enfin, mais n'étaient pas encore tout à fait en ordre de marche, à l'image de Laurent Wauquiez qui devait composer avec cette kyrielle de clubs portés par des personnalités politiques différentes, Pécresse, Bertrand, Retailleau, ce qui rendait la rentrée de la droite française particulièrement cacophonique. Alors, comparativement à ces difficultés des partis du monde d'avant, celui qui se rêvait en chef de file de l'opposition du Nouveau Monde, Jean-Luc Mélenchon, avait le sourire à Marseille hier soir pour son discours de rentrée, devant 3000 personnes, des invités venus d'autres partis, PC, PS et même LR. Mélenchon qui préméditait une nouvelle fois, même si cela avait échoué la saison précédente, un grand front commun contre le macronisme à l'occasion des élections européennes de mai prochain. Pour ces partis sonnés, démonétisés, affaiblis, en quête d'idées, il s'agissait au fond de démontrer en cette fin d'été où le président avait laissé des plumes, notamment dans l'affaire Benalla, que le macronisme ne les avait pas définitivement fauchés.
Bienvenue à ce compte-rendu de conseil des ministres de rentrée. J'espère que vous avez rechargé les batteries. Les nôtres sont pleines pour tous les sujets qui vont occuper cette rentrée chargée.
Cette année, pas de militants. Seuls les élus ont été conviés à La Rochelle pour un séminaire à huis clos. Rien à voir avec les universités d'été qui ont rythmé la vie du parti pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, un ancien habitué aimerait retrouver cet élan.
Nous avons encore un message à faire passer et puis de dire à ceux qui nous représentent au niveau national, arrêtez de raser les murs.
Il y a une alternative non populiste aujourd'hui qui se dessine à Emmanuel Macron.
Nous voulons lui mettre une raclée démocratique, qu'il entende le peuple français lui dire au revoir.
Et vous aurez reconnu sans doute Benjamin Griveaux, François Rebsamen, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Aurélie Filippetti, comment vivez-vous cette rentrée politique? Vous n'êtes plus en responsabilité, comme on dit. Comment vous regardez cette rentrée politique avec ses codes et ses rituels un peu modifiés par le macronisme? Est-ce qu'il vous semble que la saison 2 de ce quinquennat va produire enfin ce qu'on pourrait appeler une reconstruction des partis, de leur corpus idéologique, des clivages, des leaders?
Moi, j'ai l'impression que on a senti, et notamment cet été, avec le réveil en quelque sorte du Parlement autour de l'affaire Benalla, qu'on a senti que quelque chose était en train d'émerger. Après le choc de l'année dernière et effectivement l'effondrement de ce qu'on peut appeler une forme d'ancien monde, en tout cas de fonctionnement à l'ancienne, il y avait une forme de tétanie ou de sidération pendant un an. Aujourd'hui, évidemment, on peut pas dire que l'opposition soit de nouveau présente, mais quelque chose bouge. Maintenant, ce n'est pas à travers les partis que ça se passe. Et on voit bien, ce n'est plus les rentrées politiques qu'on a pu tous connaître
oui,
par
les
le
codes
passé.
Ont changé.
Et voilà, tout ça n'existe plus. Après tout, bon, c'était des codes extrêmement formels, un peu artificiels, et en fait qui étaient surtout dans la communication. Enfin, on se souvient quand les gens arrivaient avec leur petit pull sur les épaules et la mine bronzée.
On n'est plus dans la communication cette année.
Si, on est toujours dans la communication, mais ce n'est plus la même chose. Donc quelque chose va être créé. Est-ce que ça passera par les partis? Moi, je ne crois pas. En tout cas, pas pour l'instant. Mais je crois beaucoup au réveil d'une forme de vie parlementaire, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, qui permettra à une opposition démocratique, enfin, de se faire entendre.
Alors, il faut mentionner Benoît Hamon, qui s'exprime ce matin dans le journal du dimanche pour expliquer qu'il y a une place aujourd'hui, dit-il, je le cite, entre Salvini et Macron, qui reproche à Mélenchon son sectarisme et son populisme et qui semble annoncer une candidature aux élections européennes. Lorsque vous dites que vous ne croyez plus aux partis, vous croyez aux individualités davantage ?
Non, je crois plutôt, je crois beaucoup aux idées et au fait que il faut reconstituer avant tout un vrai corpus idéologique avant de s'interroger sur la forme partidaire, mouvement, etc., enfin politique, politicienne que ça peut prendre. Et je pense que la gauche comme la droite républicaine doit avant tout se concentrer sur les idées et la manière de finalement répondre aux aspirations de la population.
Les idées, le corpus idéologique, Thierry Pêche, vous avez le sentiment qu'il s'est passé quelque chose sur ce terrain-là ces dernières semaines, cet été ?
Non, alors là, j'ai rien vu. J'ai lu le journal, j'ai écouté la radio, comme tout le monde, mais j'ai...
Vous n'avez rien vu venir.
Je n'ai pas vu ça, sœur Anne. Non, je pense que les idées sont bien sûr une grande partie de la question, mais elles ne sont pas la seule. Les partis, quel que soit leur habillage, leur nomenclature, leur titre, etc., ils répondaient à trois fonctions, en fait. D'une part... identifier les attentes de la société, les capter, les formuler. D'autre part, produire des idées pour y répondre, la corpus idéologique en effet, et enfin, définir des stratégies de conquête. Le premier élément qui leur manque, c'est pas les idées selon moi, c'est un ancrage social. C'est ce qu'on appelait, de façon un peu pompeuse, l'instance de représentation sociale. Pour qui parlent les partis ? Dans la vie politique traditionnelle française, les partis de droite, ils parlaient pour les indépendants, les commerçants, etc. Les partis de gauche parlaient pour les salariés, les ouvriers. Bon. On a, parce que la société s'est complexifiée, pas simplement parce que les partis n'étaient plus au rendez-vous, mais on a une grande difficulté à identifier l'ancrage social des différentes formations politiques. Il y en a très peu qui peuvent dire pour qui ils parlent. Et ça crée beaucoup de volatilité. Parce que si vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas, fonctionnaire, ouvrier ou cadre dans une entreprise, à quoi vous vous identifiez? Où est-ce que vous vous reconnaissez? Qui vous représente? Qui est votre messager dans la vie politique? Bon, ça c'est le premier point. Après, bien sûr, il y a une faillite idéologique, c'est sûr. Les partis, ils se créent sur des chartes, sur des déclarations, des manifestes doctrinaux, manifeste du Parti communiste, Rerum Novarum pour une partie du centre-gauche ou de la droite française, etc., etc. Et là, effectivement, on ne voit pas de socle idéologique même se reconstruire. C'est frappant. Alors, on moque beaucoup La République En Marche, qui n'aurait pas de doctrine, qui courrait toujours après sa ligne politique.
Mais enfin, on en est toujours pas... à se demander si le macronisme, c'est une idéologie ou ce n'est qu'un pragmatisme.
Oui, mais ce n'est pas tellement plus glorieux au Parti Socialiste. C'est encore moins glorieux chez les Républicains. Et même chez Mélenchon, il a produit un programme. Il prétend avoir, lui, une espèce
il
de
prétend,
consistance
il
de
Il prétend afficher un renouveau des idées, des logiciels. Mais, on sait qu'il est très attaché. Par exemple, il convoque régulièrement Chantal Mouffe, cette philosophe post-marquise. Marxiste qui a été l'inspirateur de Podemos.
Interrogez-le sur la question des migrations, il est extrêmement flou. Il dit « je ne suis pas pour le droit d'installation », mais en même temps, il est dans une formation où on est censé être pour la société ouverte. On ne comprend rien à ce qu'il propose sur cette question. Donc, il y a une vraie faillite idéologique des formations politiques, y compris des nouvelles formations politiques. Alors, qu'est-ce qui vient se loger dans ce vide ? Eh bien, il vient se loger, il faut quand même en dire un mot, des formations qui sont à la fois très verticales et très liquides, qui sont très très surprenantes, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs d'ailleurs. C'est des formations qui n'ont pas de problème de leadership par rapport aux autres parce qu'elles se sont construites sur le leader, construites elles ont été construites par le leader. Et on voit revenir même des figures assez charismatiques de culte du chef. Hein, vous vous souvenez, Weber disait il y a trois types de pouvoir, le pouvoir traditionnel, le pouvoir rationnel, puis le pouvoir charismatique, c'est le pouvoir de celui dont on dit « nous on ne sait pas, mais lui il sait ». Il est tellement meilleur que nous que lui, il sait où nous conduire. Donc, il y a des formations très verticales et en même temps très liquides parce qu'on y entre comme dans un moulin, en un clic, on cotise si on veut on vient avec ce qu'on est d'une certaine façon. C'est assez surprenant, ouais. Mais c'est ça qui tient lieu aujourd'hui de partis. Et ça, c'est pas vraiment des partis, c'est plutôt des mouvements, en effet.
Donc ces mouvements-là, Sylvie Kaufmann, aujourd'hui, ils sont tous en recherche de l'homme providentiel dont parlait Thierry Pêche à l'instant, ou quand même ils continuent de s'interroger, ou de la femme, je disais l'homme au sens générique, oui, ils continuent de s'interroger sur leur corpus idéologique. Votre journal Le Monde a consacré tout un dossier cette semaine justement à ces partis politiques en quête de nouvelles idées. Alors citant en effet Mélenchon et Chantal Mouffe ou Henri Pénard-Ruiz, ce spécialiste de la laïcité, est-ce que ce travail sur les idées, il se fait aujourd'hui dans toutes les familles, les mouvements politiques.
Il essaye, en tout cas, on voit que partout on cherche. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, cette révolution est encore en cours. Et donc, comme vous posiez la question de la reconstruction ou de la recomposition, on est, je ne sais pas à quel stade on est, mais en tout cas, c'est un stade extrêmement initial. Rien n'est abouti. On cherche partout. Ça me fait penser un peu à la révolution que nous, dans la presse, par exemple, on a vécu avec le numérique et on s'adapte, on cherche, on survit, mais on est toujours, on innove tant qu'on peut, mais on est toujours à la recherche d'un business model qui n'est toujours pas, on n'a pas encore trouvé la martingale, si je puis dire, et les partis politiques ou les formations politiques, enfin l'espace politique, ce qui doit structurer la vie politique en France hors des institutions, enfin en France, en dans le monde occidental, disons, c'est pareil. Ils cherchent aussi d'une certaine manière leur business model. Alors, il y a la question institutionnelle. Est-ce que ça doit être des partis? Est-ce que ça doit être des mouvements? Est-ce que ça doit être des associations, des think tanks, des instituts de recherche, etc. Ça reste assez ouvert. C'est une des interrogations. Et puis il y a le fond, bien sûr. Donc le corpus idéologique, en effet, sur quel socle? Et alors il y a ce que disait Thierry tout à l'heure sur l'immigration et Mélenchon me fait penser que c'est ce sujet, par exemple, autour duquel tout le monde tourne, on voit à gauche et à droite, alors la droite on connaît bien, c'est assez clair, de l'extrême droite et puis d'une droite classique qui essaye de s'arranger avec ça, de voir dans la palette des positions sur l'immigration comment ce qui est tolérable, ce qui est présentable et ce qui ne l'est pas. Et puis à gauche, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la gauche traditionne normalement a une position très ouverte sur l'immigration. Je crois que Thierry parlait de la position floue ou du discours flou de Mélenchon. Moi, je dirais qu'il est plus que flou, il est ambigu. Ce qu'il a dit hier à Marseille était encore assez ambigu. Enfin, on peut interpréter ça de toutes les manières qu'on veut. Et pourquoi pas. On comprend ce cheminement parce que la gauche a échoué là-dessus. Mais elle n'ose pas encore le reconnaître. Et alors, on voit par exemple en Allemagne, il y a cette initiative très intéressante, parce que c'est pour ça que je disais une femme tout à l'heure quand vous parliez d'un homme politique, Sarah Wagenknecht, qui est la coprésidente du groupe parlementaire de Die Linke, le parti d'extrême gauche, qui vient de RDA, qui elle-même vient de l'Allemagne de l'Est, qui n'est pas tout à fait une coïncidence, je crois. Et donc, elle lance le 4 septembre un mouvement qui s'appelle Debout, Aufstehen, et qui est justement, elle a ce discours, elle veut essayer de récupérer les gens d'extrême gauche, les électeurs d'extrême gauche qui sont allés rejoindre l'AFD, le parti d'extrême droite. On a un processus similaire en France. On a eu aussi cet exode vers ce qui était encore le Front National jusqu'à ce que ça devienne le Rassemblement National. Mais donc, et sur l'immigration, elle a aussi un discours très ambigu. Elle dit l'immigration, c'était un moyen de faire baisser les salaires en Allemagne pour les travailleurs allemands. Voilà. Donc là, on voit bien à travers tout ce tâtonnement quand Laurent Wauquiez dit les élections européennes seront un des sujets majeurs, sinon le sujet majeur aux élections européennes, ça sera l'immigration, vu ce qui se passe en Italie, etc. Je crains qu'il ait raison. Donc il faut absolument qu'on arrive à progresser là-dessus.
Alors justement, avant de parler avec Dominique Régnier, de Laurent Wauquiez et de la droite, une réaction avec vous, Aurélie Filippetti. Au fond, ce que nous explique très bien Sylvie Kaufmann, la grande question de cette rentrée, c'est de savoir si les partis politiques ont retrouvé réellement des programmes ou sinon retrouvé ou campent sur des postures.
Moi, je voulais réagir sur la question des migrations parce que pour moi, elle est vraiment...
Centrale.
Elle est centrale parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que aucun responsable politique, quasiment, hein, à part Benoît Hamon peut-être, mais aucun responsable politique de gauche, et encore moins bien sûr de droite, mais disons ça c'est plus traditionnel, n'ose avoir un discours de lucidité sur un discours de courage qui est d'expliquer aux Français et à notre électorat à gauche que oui, on doit, et deuxièmement, on peut accueillir des migrants, ce qui ne veut pas dire ouvrir les frontières et abattre toutes les frontières, ce n'est pas ça, mais qu'on a une responsabilité politique, morale, historique, et qu'en plus on a les moyens de le faire, et qu'il faut contrer ce discours qui était au départ le discours de l'extrême droite, qui s'est répandu maintenant dans tout le champ politique, non seulement en France, mais en Europe, qui est de dire, oulala, attention, si on dit qu'on doit accueillir des migrants, on va faire monter le Front National ou les populistes d'extrême droite. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression, et ça me désole, que plus personne en Europe, à gauche, n'ose tenir ce discours-là, qui est le véritable discours de vérité et de lucidité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je prône la destruction de toutes les frontières et l'ouverture absolue des frontières.
Non, en clair, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne veut plus être du côté des valeurs et qu'on est uniquement dans la tactique.
Mais c'est même pas une question de valeurs. C'est simplement une question de courage politique et de pragmatisme. Le vrai pragmatisme, c'est de dire, il y a une crise migratoire. En plus, la crise migratoire en 2015, on sait très bien à quoi elle était due, et notamment beaucoup de questions géopolitiques, que les migrations ont toujours existé dans le monde, que c'est toujours extrêmement marginal, hein, quand même. Il faut écouter ce que dit François Héran, professeur au Collège de France là-dessus. On a les moyens d'organiser de la meilleure manière possible l'accueil des migrants quand ils en ont besoin et de le faire d'une manière qui soit propre. Mais aujourd'hui, en Europe, personne ne dit ça. Et du coup, l'Union européenne est en faillite totale sur cette question. Et nous sommes tous, individuellement, dans chacun de nos pays, en faillite totale. Et c'est ce discours-là, cette absence de courage-là, qui fait monter l'extrême droite.
Laurent Wauquiez, notamment, qui a saisi l'occasion de cette rentrée pour remettre l'immigration au cœur de son discours politique. Dominique Régnier, ce qui frappe du côté de la droite, puisqu'on n'a pas encore réellement parlé, c'est la dispersion, je le disais tout à l'heure, de cette rentrée politique. L'impossibilité, pas seulement pour des raisons financières, d'ailleurs, d'organiser, comme au bon vieux temps, des belles et grandes universités de la grande famille de la droite française. Laurent Wauquiez s'exprimera aujourd'hui en Haute-Loire. Il a commencé d'ores et déjà à le faire dans le Figaro hier. On a entendu Valérie Pécresse vendredi à Brive-la-Gaillarde. Est-ce que c'est différentes voix de la droite française en cette rentrée, elles correspondent à différentes idées de la droite française?
Non, je crois pas. C'est pas d'ailleurs un sujet tout à fait passionnant, mais ni peut-être même central, je crois pas. Par contre, c'est pas en disant que l'immigration sera au centre que Laurent Wauquiez a le plus tort. Hein. C'est évident. C'est évident que ça structure le débat politique national et européen. Et c'est évident aussi que on bascule du côté du refus. La Suède va voter le 9 septembre dans le même sens que les pays précédemment l'ont fait, pour la même raison, parce que l'immigration est au cœur du débat, et en particulier parce que l'immigration en Suède se passe très mal, parce qu'il y a une relation qui est faite par les Suédois et établie malheureusement entre toute une série de troubles très importants et l'immigration, et que les Suédois vont, à travers le scrutin du 9 septembre, donner plus de pouvoir aux populistes suédois, démocrates de Suède. Et donc cette espèce de dissociation entre le discours qu'on peut tenir, qui est un peu toujours le même, et qui considère que la morale, c'est d'accueillir, et non pas la morale, c'est de ne pas accueillir, parce que les conséquences de l'accueil peuvent être, du point de vue de la même morale, en réalité, tout à fait désastreuses. Il est clair que la bascule des pays européens les uns après les autres dans le camp des populistes finira par faire tomber et les démocraties et l'Europe. Donc on peut avoir une morale conséquentialiste, sophistiquant un peu l'analyse de la responsabilité historique et morale qu'il y a à traiter de ce sujet. Je vois pas ça à droite de toute façon. Ce thème de l'immigration sera utilisé comme un thème, je dirais, grossier, assez superficiel, pour essayer de capter, mais vainement, je le crois, moi, les humeurs, les mécontentements, les inquiétudes d'une partie de la société. Et on le disait au début de cet échange, les partis politiques, dans la crise qu'ils traversent ou qu'ils continuent de vivre, ne se reconstituent pas, ils continuent de disparaître, de s'effacer. Il n'y a pas d'idées nouvelles, en effet. On pourrait d'ailleurs dire que ce ne sont pas à droite comme à gauche, ce ne sont pas les idées qui manquent. Depuis un moment, il y a quand même de très bonnes idées qui ont été formalisées, posées, énoncées. C'est plutôt, comme disait l'ancien président, les femmes et les hommes capables de les réaliser. C'est plutôt ça qui manque. C'est
quelles sont ces bonnes idées lancées à droite auxquelles vous pensez
spontanément ? Il y a des idées, il y a des doctrines libérales, il y a des doctrines... Même l'hostilité à l'Europe, elle peut se construire. Après tout, c'est un programme. Moi, je ne suis pas... Ça n'a aucune importance, mais ce n'est pas ma partie. Mais on peut très bien imaginer un programme souverainiste construit avec le projet de sortir de l'Europe, de l'euro, et avoir un discours. C'est en démocratie, c'est tout à fait possible.
Même si le sujet ne vous intéresse pas, il y a quand même différentes voies à droite.
Je veux dire, je ne le recommanderais pas. Mais...
Non, mais tout à l'heure, vous disiez que ces différentes voies à droite en soi n'étaient pas le sujet. Elles le deviendront sans doute précisément sur la question du souverainisme européen.
Ben non, parce que... on va voir, si vous voulez, mais on voit bien que... Au fond, Laurent Wauquiez, je ne suis pas un passionné de ces choses-là, mais je vais quand même vous faire une réponse là-dessus. Laurent Wauquiez, à sa place, cherche à asseoir son contrôle sur un appareil politique, les Républicains. On voit qu'il n'y arrive pas. Valérie Pécresse est toujours républicain, elle fait sa propre rentrée. Xavier Bertrand n'est plus républicain, mais apporte son soutien à Valérie Pécresse, etc. On pourrait comme ça décrire la situation. Donc, il n'y arrive pas. Il y arrive encore moins, c'est la remarque que faisait Jean-François Copé la semaine dernière, hein. Il arrive encore moins à avoir le leadership sur la droite. Donc, comment faire dans cette situation ? Il pourrait avoir une doctrine à offrir, une doctrine forte, quelle qu'elle soit, qui, par sa cohérence, fixerait le regard, attirerait des électeurs qui s'y reconnaîtraient. Évidemment, c'est risqué, parce qu'on peut aussi ne pas s'y reconnaître. Mmh. Et donc, l'idée de ne pas avoir de doctrine claire, ou d'essayer d'avoir un peu des européistes, un peu des anti-européens, un peu un discours de libéral, hein, des intonations, hein, et puis, par ailleurs, des intonations beaucoup plus social-étatistes, eh bien, ça n'est pas ce qui vous permet de rassembler du monde, c'est ce qui vous isole et vous donne le sentiment qu'au fond, il n'y a pas de corpus. Mais je dirais qu'à droite, aujourd'hui, personne n'a un corpus à présenter. De même qu'à gauche, il n'y a pas un corpus à présenter. Je termine juste par cette remarque sur la question de l'immigration. La droite, on dit traditionnellement, est anti-immigrée. Je ne crois pas que ce soit vrai. Hein, les décisions de Giscard d'Estaing sont historiques en la matière. Et je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. En tout cas, elles sont très, très fortes. Elles ont été prises il y a bien longtemps. Mais en revanche, ce qu'il faut voir, c'est que la gauche, on l'a dit pour l'Allemagne, mais j'attends de voir, moi, la manière dont Jean-Luc Mélenchon va nouer des relations avec le nouveau parti allemand, Aufstehen, qui, en Allemagne, est en train d'offrir une option de gauche hostile à l'immigration pour mettre fin à la bonne morale, dit-elle, hein, de l'accueil des étrangers. Et c'est ce qui, en gros, s'est passé en Slovaquie avec le SMER. C'est ce qui se passe un peu partout. Et la reconquête des électeurs qui sont partis du côté des partis populistes de droite, si elle se fait à ce prix-là, eh bien, signifiera que la gauche disparaîtra aussi dans cette question-là, comme elle a pu engloutir une partie de la droite.
Thierry Pech, au fond, dans cette confusion qui persiste dans les familles politiques, cette confusion-là, est-ce qu'elle ne s'exprime pas très clairement dans la difficulté des partis en cette rentrée à désigner qui ils veulent pour les européennes ?
Si, alors ça, c'est un... D'accord,
est-ce que ce n'est pas dans la continuité de ce qu'on est en train de se dire
oui,
là ?
Oui, mais leur difficulté à trouver un leader pour ceux qui ne se sont pas construits autour du leader... Elle est plutôt la conséquence de tous les problèmes qu'on vient d'évoquer qu'un problème autonome, si vous voulez. Ils auraient un leader qu'ils n'auraient pas résolu toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est, la question du leader, elle est un peu secondaire.
C'est une conséquence,
en réalité.
C'est la question.
Alors, elle paraît absolument primordiale sur la scène publique parce qu'évidemment, on s'identifie à des visages, à des gens, à des noms propres et pas à des abstractions. Mais en réalité, elle n'est que l'expression de tout le reste. Non, moi, je pense que cette question migratoire, il faut y revenir un instant, elle est évidemment centrale aujourd'hui et elle l'a déjà été dans le passé. Il faut avoir un peu de mémoire historique. La gauche a fait des compromis dans le passé qui ont pu être des compromis de fermeture. Il y a eu à la CGT au début du XXe siècle des mouvements anti-migrants qui étaient très puissants, qui étaient très forts. Bon, donc c'est pas vrai que la gauche n'a pas dans son passé eu des attitudes qui étaient des attitudes de fermeture. Et c'est ce pari-là qui est fait par la nouvelle formation allemande, qui n'est pas ambiguë, hein, Sylvie.
Elle est assez claire en réalité.
L'argument consiste à dire que ça va faire baisser les salaires des pauvres gens, des ouvriers, etc. C'est un argument qu'on entendait, et d'ailleurs c'est pas étranger à ce qui s'est passé avec le Brexit, qu'on entendait au Royaume-Uni dans les milieux populaires au début des années 2000, parce qu'il y a 1 million de Polonais qui avaient débarqué dans l'agglomération londonienne et qui effectivement a amené une force de travail sur un marché du travail totalement dérégulé qui était bon marché. Bon, et cet argument il est vieux comme le léninisme, hein. Souvenez-vous, je veux dire, là aussi, il faut faire de l'histoire. Je finis très rapidement. On disait quoi? On disait la ruse suprême du capitalisme, c'est de faire entrer des immigrés pour faire baisser les salaires. Le stade suprême du... Bon.
Donc, maintenant, c'est le traité de libre-échange, le ratonnade, le Philippe VIIIe siècle
contre les Italiens à Aigues-Mortes, par exemple, exactement sur ces arguments.
Donc, moi, la conclusion que j'en tire, si vous voulez, si on veut sauver l'honneur de l'Europe, puisque cette expression a été utilisée par notre chef de l'État lorsqu'il était en campagne, c'est-à-dire sauver les valeurs d'ouverture de l'Europe, de solidarité avec le monde. On aura besoin de l'Afrique. La croissance, elle sera en Afrique dans 50 ans. Bon. Il faut qu'on donne à nos populations le sentiment qu'on maîtrise le sujet. Si on veut rester ouvert, il faut qu'on donne le sentiment qu'on le maîtrise. Et c'est là-dessus que les partis de gauche devraient travailler, et de droite aussi d'ailleurs, bon, parce que l'hostilité n'est pas une réponse en soi. Et c'est là que je ne vois rien, c'est ça qui est dramatique, si vous voulez. Si on veut sauver le droit d'asile, c'est vrai qu'il faut pouvoir retourner des expulsés chez eux. Et c'est vrai qu'il y a des États non coopératifs, et que ça ne va pas. J'ai regardé les statistiques cet été pour d'autres raisons, d'assez près. Vous avez toute une série d'États du Sahel et d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest, qui sont pas des États en guerre civile. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, sont pas des États qui sont en guerre civile. Bon, évidemment, la plupart des gens qui arrivent de ces États-là et qui demandent l'asile en Europe ne l'ont pas, parce que c'est pas des Darfouris, si vous voulez, c'est pas des Syriens, ils viennent pas de pays en guerre. Bon, et ces États ne reprennent jamais leurs migrants. Si on veut sauver le droit d'asile, qui n'est qu'une partie du problème, il y a d'autres aspects naturellement. Eh ben, il faut qu'avec ces États, on ait des bras de fer un peu sérieux pour que ça marche, parce que nos populations ne supporteront pas l'idée que on leur impose, quoi qu'il arrive, des gens qui sont des fantômes dans la société, qui sont ni expulsables, ni régularisables, qui vont au centre d'hébergement, qui sont en travail au noir, etc. Donc voilà, comment on construit un discours de maîtrise pour sauver l'ouverture? C'est ça mon point, et c'est là-dessus que moi j'attends la gauche.
Au-delà de la question migratoire qui sera centrale, vous l'avez dit Thierry, à la fois pour la gauche et pour la droite, il y a aussi les questions économiques qui se posent en cette rentrée. Dominique Reynier, qui sont très investis par la droite ou par les droites, je ne sais pas comment il faut les nommer. On entend parler par exemple Laurent Wauquiez d'un Emmanuel Macron qui va dans le mur sur la question des déficits publics, sur la question des prélèvements obligatoires et aussi, c'est vrai, sur la question de l'islam et de la sécurité. Ça fait partie de ces grands quatre anathèmes de la rentrée. Les questions économiques, elles peuvent permettre aussi en cette rentrée aux partis politiques de se reconstruire, de se restructurer, de construire une opposition.
Alors là, moi, je trouve que là, c'est un point très important parce que les partis d'opposition de droite, qui sont en particulier des partis dits de gouvernement, ceux qui ont gouverné, qui sont appelés à gouverner dans une logique démocratique, doivent saisir cette occasion pour faire valoir leurs propositions. Les grandes oppositions qu'on a entendues depuis la droite, la question que vous posez, c'est en gros les 80 km/h et l'affaire Benalla. Bon, c'est politiquement la moindre des choses se saisir de ces questions-là, mais c'est quand même très court. Hein. Et c'est quand même très court, on va pas très loin. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est savoir, mais que proposez-vous? Et vous, chacun se souvient, il y a un an, donc on a quand même cette mémoire minimale, les décisions du gouvernement de la majorité actuelle de réduire des dotations aux collectivités locales ou de supprimer, je ne me prononce pas sur ces méthodes, sur ces décisions, ce n'est pas l'objet de la discussion, la taxe d'habitation pour les communes, ont fait l'objet de très fortes critiques de la part de la droite, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle propose elle-même, ni comment elle peut mettre ensemble la critique qui est faite à un gouvernement qui est censé ne pas réduire suffisamment la dépense publique et la critique qui est faite à un gouvernement qui prend des décisions de réduction de dépenses publiques qui sont censées être inappropriées. Donc il faudrait quand même qu'on y voit clair, qu'on sache où on place le curseur. Et si la droite, qui ne l'a jamais fait quand elle a gouverné, pour moi c'est fondamental ça, la droite n'a jamais fait, pendant qu'elle a gouverné, ce qu'elle recommande aujourd'hui, aussitôt qu'elle est dans l'opposition. Je sais que c'est un jeu classique, tout le monde le sait, on est tous au courant. Ça ne marche plus, justement. C'est peut-être la bonne nouvelle, moi je trouve, que ça ne marche plus, et qu'on attend de beaucoup plus de tous ces gens-là que de nous dire, une fois qu'ils sont dans l'opposition, que si un jour ils gouvernent à nouveau, cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc là, on attend de ces universités, d'ailleurs, moi je trouve que le terme est inapproprié, et je demanderais que pour l'université française, française, d'appeler ça l'université d'été, ça peut être des rendez-vous estivaux, après tout, ça a de l'allure aussi, c'est peut-être plus proche de la réalité, on énonce des programmes concrets d'action économique et qu'on fasse des choix. Et c'est là, évidemment, que ça devient difficile, parce que vous allez dire, moi je recommande, un effort de réduction des dépenses publiques ici, donc ça aura des effets, il faudra vous en expliquer, ou là, mais pas simplement comme cela, comme on le fait aujourd'hui de manière très naïve et superficielle, jouer une espèce de jeu vraiment trop aisé de critiques sans proposition. C'est un peu le rendez-vous que la droite ne doit pas manquer.
Merci pour ces éclaircissements sur cette rentrée politique française. On va garder quelques minutes avant de partir en Italie pour parler du décès de John Cain avec vous, Sylvie Kaufmann, qui est beaucoup commenté ce matin, ce pilote torturé pendant la guerre du Vietnam qui nous a quittés à 81 ans des suites d'un cancer, qui avait été candidat à la Maison Blanche, dont Maverick était une sorte comme ça d'épithète homérique, le côté franc-tireur de ce personnage, profondément consensuel à droite comme à gauche, ce qui est surprenant puisqu'il tenait des positions très conservatrices, consensuelles, particulièrement dans l'Amérique de Donald Trump.
Oui, c'est ça, c'est un personnage, c'était un homme, moi j'ai couvert une de ses campagnes électorales, je crois que c'était une primaire, c'était pas celle de 2008 où il cette aventure assez malheureuse qu'il a faite avec Sarah Palin à ses côtés, c'était vraiment un drôle de tandem, un drôle de ticket, 2008. Ouais. Mais je me souviens d'une primaire, je pense dans l'État de New York, c'était un personnage extrêmement chaleureux, très accessible, très ouvert, pour moi, c'est vraiment un héros à l'américaine. Alors, il a en effet ce passé d'ancien combattant au Vietnam. Donc, il était pilote de l'aéronavale. Son avion a été abattu.
Carrière militaire longue comme le bras.
Voilà, et a été abattu. Il avait les jambes et les bras cassés. Il a été récupéré par les Vietcong. Et comme son père était un amiral assez important, évidemment, il y a eu une proposition de l'échanger. Et il a refusé d'être libéré si ses camarades, qui était fait prisonnier avec lui, ne l'était pas en même temps que lui. Et du coup, il a été torturé pendant 18 mois et détenu, libéré au bout de 5 ans. Et il en a gardé des séquelles physiques. Il ne pouvait pas, par exemple, il ne pouvait pas plier les bras. Enfin, voilà. Et jusque dans il a été atteint d'un cancer très agressif au cerveau depuis un an. Et jusqu'au dernier jour, il s'est battu, y compris sur le plan politique. Et donc, y compris dans son opposition à Trump. Et donc,
sur l'Obamacare, par exemple, en juillet 2017.
Or, il était sénateur républicain.
Il s'était opposé à l'abrogation d'Obamacare.
Mais dès le début, il a vu ce qu'allait être Trump, ce qu'allait être la présidence Trump. Il s'y est opposé. Et dernière chose, c'était quelqu'un qui était, le sénateur McCain était très attaché à la relation transatlantique. Et dans cet aspect-là aussi, il est un peu l'anti-Trump. C'était vraiment quelqu'un qui croyait à l'action publique, à une vraie politique étrangère des États-Unis, qui en avait une vraie conception intellectuelle et politique. Et voilà, je pense qu'il va beaucoup manquer aujourd'hui à la politique américaine.
Merci beaucoup Sylvie Kaufmann de nous avoir parlé de John McCain. On va maintenant partir pour l'Italie, rapté, capté très habilement et très brutalement cet été par un homme, Matteo Salvini.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
On dit de lui qu'il a pris l'Italie à la hussarde. En quelques semaines seulement, Matteo Salvini est devenu bien plus que le ministre de l'Intérieur de l'improbable coalition italienne au pouvoir, 5 étoiles, la Ligue. À coup de déclarations tonitruantes du ministre sur les migrants et ses bateaux que l'Italie n'accueillerait plus, à coup de tweets, en moyenne 24 par jour, plus que Donald Trump, de photos de lui torse nu, bedonnant et fier de s'afficher en mâle italien viril et de vidéos en famille, jusqu'à cette indécente sortie après après le drame de Gênes, Matteo Salvini dénonçant les contraintes européennes qui, je le cite, empêchent l'Italie de dépenser son argent comme elle le veut pour retaper ses écoles ou ses infrastructures. Le ministre de l'Intérieur italien feignant donc d'ignorer qu'une enveloppe de 2,5 milliards d'euros était déboursée par Bruxelles depuis 2014, précisément pour les infrastructures de la botte. Salvini et sa politique, approuvée très largement par les Italiens, une xénophobie nouvelle, autorisée et banalisée dans le pays, des personnes de couleur prises pour cible, et un climat nauséabond contre lequel aucune opposition ne semblait pour l'instant efficace. L'Italie, certes, qui s'était sentie abandonnée par l'Europe ces dernières années dans le contrôle de ses frontières. L'Italie et sa jeunesse, nombreuse, au chômage, son endettement. L'Italie qui avait souffert de ne plus compter, faisait donc le choix de confier sa destinée à Salvini. Salvini qui, aux côtés d'un autre ultranationaliste, Viktor Orban, le premier ministre hongrois avec lequel il entretenait les meilleures relations, semblait aimer l'idée d'incarner l'anti-Europe du couple Merkel-Macron. Cet été, c'était bien un hold-up que Salvini avait réussi sur l'Italie, et sans doute bien au-delà de ses frontières.
Mi chiamo Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1970.
Je m'appelle Matteo Salvini. Je suis né à Milan le 9 mars 1973. Journaliste professionnel en disponibilité, actuellement sénateur et ministre de l'Intérieur de ce pays, avec comme mandat précis de défendre les frontières de ce pays, de m'occuper de la sécurité de ce pays.
Se bloccare una, due, tre, quattro, cinque navi.
Si bloquer 1, 2, 3, 4 ou 5 bateaux me conduit à être accusé et poursuivi en justice, je suis là. Je ne suis pas un inconnu. Je suis Matteo Salvini. Je suis ministre de l'Intérieur et j'en ai assez de voir traîner dans nos villes des centaines de milliers de faux réfugiés qui ne font rien du matin au soir et qui coûtent à l'Italie 5 milliards d'euros.
Matteo Salvini, dans l'un de ses nombreux Facebook Live, cette verve salvinienne semble sonner doux aux oreilles des Italiens. Cette cote d'amour, elle vous surprend, Thierry Pêche ?
Ah, pas du tout. Non. Bah, il a fait tout ce qu'il fallait pour surfer sur le cancer qui s'est développé en Italie depuis 10 ans, qui a plusieurs aspects. On commande beaucoup. L'Italie était un pays de grande hospitalité, traditionnellement, hein, notamment le sud italien. Il en reste d'ailleurs quelques témoignages. Ça a été balayé par la crise migratoire. L'Italie a été fortement exposée aux traversées de la route dite de Méditerranée centrale. Bon, ça c'est le premier point. Mais il y a aussi une fatigue européenne en Italie, qu'on a moins commentée, mais qui est très frappante. C'était un pays très européen qui l'est plus beaucoup, voire plus du tout. Donc Salvini, il est un peu le résultat de tout ça. Alors, il semble être l'homme fort de la situation, parce qu'effectivement, dans les sondages italiens, il dépasse de très très loin aujourd'hui ses partenaires de Cinque Stelle, et qui pourtant avaient des résultats électoraux plus flatteurs. Et il a un talent de démagogue populiste absolument stupéfiant. Bon. Mais en même temps, c'est le maillon faible européen à beaucoup d'égards. Parce que son rapprochement avec Orban... Pardon, c'est le rapprochement d'un intellectuel avec un jeune homme. Orban est beaucoup plus articulé que Salvini. Il sait très bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. L'Italie a besoin de l'Europe sur la question migratoire. Elle a besoin de solidarité avec ses voisins méditerranéens, par exemple. Orban, pas du tout. C'est pas son sujet. Orban, il est très respectueux des intérêts économiques de l'Europe. Il l'a dit à plusieurs reprises. Bon, Salvini est en train d'insulter l'avenir économique de l'Europe. Je voudrais juste faire un petit point là-dessus. J'ai regardé les indicateurs économiques. Le spread italien, c'est-à-dire le taux, l'écart de taux entre le taux auquel l'Italie emprunte pour financer son déficit et sa dette par rapport au taux allemand qui est la référence du marché. Il a 265 points de base, c'est-à-dire qu'on entre dans la zone rouge. La question, c'est pas est-ce que les Européens vont voler au secours de l'Italie. Les mécanismes de stabilisation financière qui ont été mis en place après la crise des dettes souveraines permettent de sauver à peu près la Grèce, mais pas l'Italie, pas même l'Espagne. Donc, c'est l'idée selon laquelle l'Italie serait too big to fail est une idée fausse. L'Italie est too big to be saved. Elle est trop grosse pour être sauvée. Bon, et donc Salvini est en train de jouer avec le feu en laissant déraper le déficit budgétaire italien avec une dette qui est quand même de 130 points de PIB et en affolant des marchés dont il va avoir besoin. La question, c'est pas est-ce que Bruxelles va faire des efforts, est-ce que ses voisins européens vont être sympathiques, c'est est-ce que, parce qu'il en a besoin, les marchés financiers, les investisseurs vont lui prêter de l'argent demain. Bon, pour le moment, le taux s'envole, ça peut coûter très cher et tout ça peut faire le lit d'une nouvelle crise profonde en Italie, qui fera beaucoup de mal à l'Europe, mais qui fera aussi d'abord beaucoup de mal à l'Italie. Et donc, au total, ça ressemble un peu à une politique du ressentiment, une politique de l'envie noire, comme disent les psychologues. C'est-à-dire ces psychologies dans lesquelles le malheur des autres vaut consolation du vôtre. Eh ben, en réalité, c'est pas génial comme résultat.
Alors, notamment parce qu'il y a eu la catastrophe du pont de Gênes, Aurélie Filippetti, c'est vrai qu'on a le sentiment que Matteo Salvini a été le personnage principal de cet été. Alors, ce pays, évidemment, pour vous, c'est un pays particulier, c'est un pays à part, l'Italie. Comment est-ce que vous avez regardé ce personnage-là cet été ?
Ben, pour moi, Salvini, c'est l'apothéose de la société du spectacle telle que aujourd'hui nous la vivons, telle que l'avait décrite ou anticipée Guy Debord il y a plus de 40 ans maintenant. C'est-à-dire que face à ce type de personnage qui est totalement, c'est un clown terriblement dangereux, évidemment, mais c'est un clown qui fascine et qui utilise tous les moyens de communication et au fond le mode de fonctionnement actuel, ce narcissisme auto-organisé par les réseaux sociaux, etc. Enfin, il utilise tout ça d'une manière quand même très très efficace. Et face à ce discours-là, c'est ce faux sans réplique. Encore une fois, comme disait Debord, on ne peut pas répondre par des arguments rationnels. Il est dans le spectacle permanent, et donc il l'utilise chaque jour qui passe, chaque événement qui passe, pour dire évidemment absolument n'importe quoi, des mensonges éhontés. Mais en face, si vous avez un discours exclusivement rationnel, ça ne suffit pas. Alors en même temps, c'est pas complètement nouveau, parce qu'il faut se rappeler quand même que l'Italie est aussi victime de 20 ans de berlusconisme qui ont laissé des traces profondes dans malheureusement l'affaiblissement, le dévoiement même du fonctionnement politique et dans le discours politique. Mais ce qui me gêne aussi de l'autre côté, c'est que nous ne sommes pas quand même, nous, en France ou enfin en Europe, on n'est pas non plus les mieux placés pour donner des leçons à l'Italie, ni sur le racisme. Enfin, je rappelle quand même que le Front National arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour la deuxième fois. Sur la question migratoire, l'Italie a accueilli, comme la Grèce d'ailleurs, et le sud de l'Italie, beaucoup plus de migrants, aussi parce qu'il y a cette tradition d'un catholicisme social très ancré, et ils ont accueilli beaucoup de monde, et l'Union européenne les a laissés totalement seuls, comme ils ont abandonné totalement la Grèce sur cette question. Donc on peut pas ensuite venir dire « attention les Italiens, vous êtes des racistes », parce que là, c'est l'Union européenne qui a failli. La dernière chose, c'est que l'Italie est un pays qui est très varié, enfin qui est très régionaliste. Salvini, il vient du nord de l'Italie, donc il vient de la partie la plus riche. Et il est, je dirais, aussi méprisant avec les habitants du sud de l'Italie qu'il l'est avec les étrangers, avec les migrants, etc. C'est-à-dire qu'au fond, lui, il représente le miracle économique du nord de l'Italie. Ceux qui ont été les premiers et qui ont accueilli le plus, ce sont les gens du Sud qui sont aussi les plus pauvres. Et ce que l'Italie doit aujourd'hui traiter, c'est comment faire pour que ces dysfonctionnements, l'Italie ne consomme pas l'intégralité des fonds européens qui lui sont alloués, notamment pour les infrastructures comme les infrastructures routières. Et pourquoi ? Parce que le système ne marche pas, enfin l'organisation administrative ne marche pas, notamment du fait de cette grande disparité territoriale. Et donc ça, ce sont des problèmes très politiques auxquels elle n'arrive pas à faire face, et évidemment que Salvini ne va absolument pas régler. Donc c'est très facile pour lui de jeter l'opprobre sur l'Union européenne en disant finalement l'Union européenne nous empêche de faire des investissements. C'est un discours qui économiquement en plus qui peut toucher y compris une partie de l'électorat un peu de gauche qui se dit en fait l'Union européenne nous, avec les contraintes de Maastricht on peut peut-être pas investir, etc. C'est évidemment faux. Il n'empêche que si l'argument que donnait Thierry tout à l'heure, cet argument qui est de dire attention les marchés financiers vont punir l'Italie parce qu'en gros ils ont mal voté, ça c'est pour moi le pire des arguments. C'est-à-dire que si on veut faire monter la popularité de Salvini, il faut dire ça.
Un peu contre-productif. Je pense
que c'est totalement contre-productif.
Vous parliez, Aurélie Filippetti, de la Société du spectacle, Sylvie Kaufmann. Est-ce qu'en effet, en regardant vivre, agir Matteo Salvini cet été, on ne comprend pas finalement comment doit fonctionner aujourd'hui un leader populiste pour devenir charismatique et populaire dans ces pays-là? Il n'est jamais, paraît-il, dans son bureau du ministère de l'Intérieur. Il est en déplacement en permanence. Je vous invite à aller regarder ses Facebook Live ou ses vidéos qu'il poste dans sa cuisine avec son fils plusieurs fois par jour. On assiste là quand même à un nouveau profil de ténor politique européen.
Oui, alors nouveau, oui et non, parce que si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, on a un poste différent puisque lui est président. Alors qu'on a tendance à l'oublier, Matteo Salvini n'est pas président ni Premier ministre. Il est vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Mais c'est le modèle Trump, pas seulement par l'utilisation des réseaux sociaux. Visiblement, il a dépassé Trump en termes de rendement sur Twitter quotidien. Mais cette provocation permanente, ce spectacle permanent, cette utilisation des contre-vérités, il ment, vous l'avez dit tout à l'heure sur les crédits européens, bien entendu. L'Union européenne a donné de l'argent pour financer les infrastructures italiennes comme elle le fait ailleurs. Sur les chiffres, il donne des chiffres faux, comme le fait Trump. Donc on a ce modèle qui est assez terrible, et Salvini le fait d'une certaine manière avec plus de génie encore que Trump.
Je ne sais pas.
Peut-être. Et il le fait depuis le début de sa carrière, en fait. Quand vous parliez de hold-up, c'est vrai qu'il a fait un hold-up sur son parti, il a fait un hold-up sur Berlusconi après le résultat des élections, puisque le parti de Berlusconi était et toujours d'ailleurs partenaire de la Ligue dans plusieurs régions du Nord et collectivités locales. Mais il a réussi à s'en débarrasser pour former ce gouvernement avec le mouvement 5 étoiles, sur lequel il est pratiquement en train de faire un hold-up aussi, puisque on oublie encore que 5 étoiles était en tête des élections le 4 mars avec 32%. Et la Ligue de Salvini n'avait que 17%. Maintenant, dans les sondages, ils sont à égalité, au moins. Donc, le 5 étoiles a un petit peu baissé vers 30%. Et Salvini, la Ligue, est arrivée maintenant à 30% aussi. Donc, il a, en quelques mois, il a vraiment progressé. Il l'a fait de manière très maligne. Cinq étoiles, évidemment, est un mouvement beaucoup moins expérimenté. La Ligue, dans le Nord, ils ont une expérience. D'abord, sont des régions riches. Et puis, ils ont une expérience de gestion de locale. Alors que 5 étoiles, un personnel politique, je crois, beaucoup moins bonne qualité. Et c'est laissé imposer un partage des tâches au gouvernement qui joue au détriment de 5 étoiles. C'est-à-dire que 5 étoiles a la partie du programme qui est la plus difficile à appliquer, la plus coûteuse, alors que Salvini se concentre sur l'immigration, sur la crise migratoire.
C'est la question que je voulais vous poser, Dominique Reynier, en effet. Est-ce que cette espèce d'état de grâce de cette étrange coalition italienne peut durer? C'est vrai que dans un premier temps, il y avait finalement les mesures faciles à énoncer, notamment sur les questions migratoires, mais viennent maintenant le temps des décisions budgétaires, économiques, avec toutes ces promesses qu'il va leur falloir ou non tenir, l'instauration d'une flat tax, la réforme des retraites, l'instauration d'un revenu universel. Quels sont aujourd'hui les contrefeux à cette
politique-là? Les garde-fous.
Voilà, j'ai fait un doux mélange.
Oui, non, mais c'était très, très, très clair. On l'a dit, je vais pas le répéter à mon tour, l'Italie souffre d'une absence d'Europe sur la question migratoire. L'Italie souffre de sa géographie. Et donc, il est aussi facile de donner des leçons à un pays qui, par sa géographie, est exposé, il y a des logiques territoriales, à des flux importants et problématiques. L'Italie a beaucoup souffert de certaines dérives, et ça a été dit, liées à l'immigration. C'est pas un problème passé. Les problèmes que pose la mafia nigériane dans le sud de l'Italie sont tout à fait considérables. Tout ça n'est pas rien, et fait que ce pouvoir est en place aussi sur le vide de propositions de ses concurrents et leur échec. Maintenant, il va y avoir une épreuve de vérité, et nous y entrons là. Et parce que sur la question du programme économique, Thierry disait tout à l'heure, ça n'est pas applicable dans l'État. Et là, il y a un point clé. C'est pas un discours d'expert. Moi, je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais c'est pas un discours d'expert qui va expliquer aux Italiens que c'est pas possible. C'est l'expérience qu'ils vont en faire eux-mêmes. Les Italiens ont pris des distances avec l'Europe, pas avec l'euro, dont ils considèrent que c'est une monnaie solide à laquelle ils préfèrent confier leur patrimoine plutôt que à une monnaie nationale restaurée. Donc les Italiens vont être très sensibles au sort de l'euro dans cette affaire. Et deuxièmement, les Italiens ont un recours très large, sans doute abusif, aux emprunts à taux variable pour leurs achats divers, en particulier pour l'immobilier. Ça veut dire que quand les taux d'intérêt augmentent sur l'Italie, on a dit qu'ils augmentaient et ils augmentent très fortement, aussitôt, la charge qui pèse sur les ménages italiens devient plus lourde. Lorsque les Italiens, ça ne tardera pas, vont faire la relation entre la politique qui est menée aujourd'hui par leur gouvernement et les difficultés croissantes de leurs conditions personnelles, notamment regardant la question des taux variables, qu'ils ont peut-être imprudemment contractés, enfin c'est fait, et la situation de l'euro, là je pense que ça peut changer. Mais il ne faut pas souhaiter la catastrophe, le malheur des Italiens, bien sûr, ce sont nos frères, nos amis, enfin nos compatriotes, enfin, c'est nous quoi. Hein. Il ne faut pas souhaiter cela évidemment, si bien que comment imaginer la fin de cette politique purement populiste qui aujourd'hui fait beaucoup de mal à l'Europe, et il ne faut pas que ça continue parce que l'Italie est un grand pays, un pays fondateur, sans avoir des options à proposer à nos amis italiens, à la fois sur le plan interne et sur le plan de la grande question migratoire dont nous en avons déjà parlé.
Pour boucler la boucle avec notre première partie, Thierry Pêche, et en guise de conclusion de cette seconde, dans la presse italienne cet été, on pouvait lire beaucoup d'ennemis du président Macron lui prédire finalement un destin à la Matteo Renzi, c'est-à-dire c'est l'ancien dirigeant italien qu'on appelait il rotamatore, le démolisseur, dont on savait qu'il voulait envoyer la vieille classe dirigeante italienne à la casse, jeune, fougueux. Beaucoup établissent ce parallélisme-là, Macron-Renzi, et donc après Macron.
Mais je vois bien les raisons du parallèle, mais je crois que dans la circonstance, l'enjeu est différent. Orban a choisi Macron comme adversaire. Salvini fait à peu près la même chose. Non, Orban l'a désigné, je réponds à Sylvie qui a l'air d'en douter, il l'a désigné nommément comme son interlocuteur dans le débat européen. Et Salvini fait en pratique à peu près la même chose. Bon. C'est-à-dire que tous les populistes veulent faire porter au président de la République français le chapeau du libéral. Et donc poser le débat comme un débat entre les nationaux populistes et les libéraux. Voilà, c'est ça. Il n'y aurait pas d'espace pour les sociodémocrates, pour les autres, etc. Ce serait ça le sujet. La question qui se pose à Macron, c'est est-ce qu'il accepte les termes du jeu. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que il se mettrait en situation de dessiner un paysage politique dont les coordonnées et la géométrie auraient complètement changé et pourraient finalement lui convenir. D'un côté, ceux qui sont les vrais Européens, de l'autre, ceux qui veulent détruire l'Europe. Bon. Et il pourrait comme ça espérer fracturer...
Les conservateurs, etc. C'est un clivage qu'il essaye d'établir depuis pas mal de temps.
Il pourrait comme ça essayer de fracturer des ensembles politiques qui sont devenus totalement incohérents. Par exemple, le PPE, qui est le parti européen de la droite, où vous avez à la fois Orban et Merkel. Comment ces deux figures peuvent cohabiter dans une même formation ? Il pourrait essayer de fracturer aussi une partie... des sociodémocrates, dont la cohérence n'est pas forcément tout à fait claire.
C'est pas mieux, Fitzo, c'est pas mieux.
Voilà. Donc, je pense que c'est un pari qui peut être tenté de faire, mais c'est un pari qui peut être aujourd'hui douloureusement perdant. Et en tout cas, au centre de ce pari, il y a une proposition qui manque encore, à mon avis, sur les questions migratoires.
Oui, Aurélie Filippetti.
Moi, je crains beaucoup ce scénario. Effectivement, je crains beaucoup qu'Emmanuel Macron entre... Dans ce jeu-là, évidemment, on voit bien qu'il a beaucoup à y gagner, selon lui. En gros, les pro-Europe contre les anti-Europe. Parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est que comme pour l'instant, il a fait plutôt la démonstration de son libéralisme économique, en tout cas, les classes populaires, en France et en Europe, elles vont se dire, ouais, mais nous, on est les sacrifiés dans l'histoire. Et donc, à choisir entre un libéral économique... Et de l'autre côté, les populistes extrémistes, où vont aller les classes populaires? Pour moi, la question, c'est qui va s'adresser à ces classes populaires en disant, voilà, une politique économique qui relance des investissements, qui défende les minima sociaux, qui défende les salaires, le droit du travail, etc. en Europe et les droits sociaux en Europe. Voilà, il faut absolument qu'il y ait une force politique qui, au moment des européennes, incarne ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut regarder un peu du côté, alors quittons l'Italie, mais au Portugal, le gouvernement de gauche a une politique qui est une vraie politique novatrice, courageuse et de gauche, vraiment progressiste, et ça marche. Le miracle économique portugais, il est réel. C'est-à-dire en augmentant les salaires, en augmentant les minima sociaux et en défendant les droits des travailleurs, ben, ils arrivent à faire, à créer de la croissance que, pardon, nous, en France, on n'arrive pas à faire. Et pour moi, la réponse face aux populistes, c'est ça, c'est de dire aux classes populaires, oui, il y a des politiques qui peuvent marcher.
Le mot de la fin.
Juste sur le modèle portugais qui est vanté à gauche, je ne dis pas par vous à l'instant, mais vanté à gauche, c'est aussi fondé sur la baisse des dépenses publiques et une politique fiscale extrêmement favorable aux possédants.
Hein. Mais là, c'était auparavant, mais enfin depuis.
Ça reste
la clé. Enfin, l'augmentation des salaires, des minima, des investissements.
Si je peux essayer de vous mettre d'accord, je pense que les grandes différences.
Et on consacrera une émission au Portugal un autre dimanche si vous souhaitez.
Le Portugal n'a pas besoin, comme l'Italie va en avoir besoin, d'aller faire la manche sur les marchés financiers pour équilibrer son budget.
Et cela vous met, semble-t-il, tous d'accord. Merci beaucoup. On garde quelques précieuses minutes pour nos conseils de lecture hebdomadaires. Vous l'aurez compris, on va bien sûr recommander le livre d'Aurélie Filippetti, ce roman politique dont on n'aura pas eu le temps de parler, mais vous en parlerez dans d'autres formats de cette antenne. Les idéaux d'Aurélie Filippetti, publié chez Fayard. Et puis je mentionne aussi le livre de notre ami Daniel Cohen qui vient de sortir. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète, publié chez Albin Michel. Vos conseils de lecture, Sylvie Kaufmann.
Sur l'Italie, deux livres, un roman de Silvia Avallone chez Liliana Levi, La vie parfaite, qui est sorti cette année, sur la jeunesse dans les quartiers difficiles de Bologne. C'est très intéressant. Et puis, je voudrais rappeler la Gomorra de Roberto Saviano, qui est en difficulté très sérieuse
avec notre ami Matteo Salvini. À qui Salvini veut enlever sa protection policière.
Justement, et qu'il faut absolument relire.
Thierry Pêche.
On a beaucoup parlé de migration. J'ai lu cet été avec beaucoup d'émotion Les émigrants du grand auteur de langue allemande.
Et Aurélie Filippetti aussi, oui.
Qui sont cinq portraits magnifiques de parents plus ou moins éloignés qui ont dû émigrer souvent à cause de la guerre et qui ont tous fini sombrés dans une ténébreuse mélancolie, parfois marquée ponctuée par le suicide, parfois par des formes d'abandon. C'est très très beau, très très troublant et assez bouleversant.
Les émigrants, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Merci à tous les quatre d'avoir été présents pour cette émission de rentrée. Merci à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. La semaine prochaine, écoutez bien, nous céderons l'antenne aux protestants dans la foulée de la messe pour le rendez-vous annuel de la fin d'été où est commémorée la traversée du désert. C'est une obligation de service public, donc pas d'esprit public la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, nous nous retrouverons bien sûr dimanche 9 septembre avec Christine Ockrent, Hubert Védrine, Philippe Magnard et encore vous, je crois, Thierry Pêche. Dès demain lundi sur France... Vous avez l'air étonné, mais je vous le confirmerai tout à l'heure. Dès demain lundi sur France Culture, ne manquez pas le grand retour de Guillaume Erner, Olivia Gesbert, Hervé Gardette aux manettes des matins, de la grande table du grain à moudre et puis Tiffaine de Rocchini dans Entendez-vous l'écho et d'autres nouveautés de rentrée. Surprise, sachez en ce qui nous concerne à l'esprit public, que nous accueillerons donc désormais, vous l'aurez compris, Aurélie Filippetti, mais aussi Daniel Cohn-Bendit, et que nous serons, et nous en sommes très heureux, une fois par mois au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, pour nos émissions en public. Bon dimanche sur France Culture, et donc à dans 15 jours.